Conférence de Spivak, Get a Grip on Gender, 3. Permettez-moi de faire une petite digression maintenant. Ce langage de l'utopie me vient parce que je ne suis pas seulement une Nacer. Note de la traductrice, je ne sais pas ce que ça veut dire. Je suis aussi une membre honoraire de Pékin plus 15, Pékin plus 18, Pékin plus 20.
Parce que je pense que vraiment c'est le seul moyen. Et d'ailleurs, je suis même pour
les consolant values du Forum économique mondial. Pouvez-vous imaginer cette bande d'escrocs? Parce que vous ne pouvez pas vous faire comprendre
à l'intérieur de ce discours.
Parce que, en termes de conscience publique large,
il ne faut pas rester dans un petit cercle fermé, sinon il ne se passe rien. Donc, quand je parle de cette utopie,
je parle vraiment de ce que j'entends, de ce que j'entends et de ce que j'essaye de retourner. Pas toujours avec succès. L'utopie, la racine du mot. Et ça montre combien c'est un choix rationnel non contraint qui gouverne le monde aujourd'hui.
C'est une non-place, mais en fait, ça peut être aussi une bonne place que nous essayons d'approcher, mais pas de réaliser. L'utopie proposée par la globalisation,
c'est un level playing field. Note de la traductrice.
C'est une expression anglo-saxonne qui désigne un environnement dans lequel toutes les entreprises d'un marché donné doivent suivre les mêmes règles et ont les mêmes capacités à être compétitives.
Et vous savez comment Utopia devient une bonne place? Par une erreur d'épellation, par une mauvaise épellation. Le E est tombé, ça devient U, une erreur d'épellation délibérée. Vous devez savoir ça, bien sûr. Vous dans l'audience et vous, le U, et vous mettez devant le U un E, et EU, les États-Unis, on peut rigoler là-dessus. EU, et ça devient une bonne place. E. plutôt qu'une no place. Donc l'utopie proposée par la globalisation,
c'est un level playing field. Je pense que c'est généralement compris que c'est une fausse promesse, et particulièrement dans la mesure où l'impossibilité inhérente à toute pensée utopienne est ignorée par elle. Le monde est mené par le but de réaliser ça, plus ou moins hypocritement. Pour faire ça, les sponsors de la globalisation mettent l'accent sur le fait que l'accès au capital amène et crée de la production sociale.
Et faire des levées de fonds à l'intérieur de ça.
Parmi les entrepreneurs moraux auto-sélectionnés de la société civile internationale, ça devient la base de l'activisme. C'est une fausse promesse que le capital amène de la productivité sociale. Et pour la faire avancer, les sponsors de la globalisation ne mettent pas l'accent sur le fait que une telle productivité doit être médiatisée de manière humaine par des preneurs de décisions qui sont particulièrement et profondément entraînés dans un esprit de moralité inconditionnelle. Une éthique inconditionnelle, c'est en fait une idée qui est partagée par la plupart des groupes dans le monde. Dans ma langue, on dirait « hohoi te kiperen ». Je ne sais pas s'il y a des gens qui parlent ma langue ici qui pourraient comprendre cette phrase, mais l'éthique inconditionnelle, c'est quelque chose qui est quand même relativement assez répandu. Et avec le déclin des enseignements des humanités, ce groupe n'existe plus. C'est une espèce qui s'est éteinte. Aux têtes savantes des universités, quelles qu'elles soient, je répète, ce que j'ai dit au président de l'université, qui a été assez aimable pour me donner mon premier doctorat d'honneur, pensez à l'éducation en sciences humaines comme le service de santé épistémologique et éthique de la société dans son ensemble. En l'absence de roi philosophe dirigeant l'utopie globale, ce qui est aussi et nécessairement ignoré, c'est que pour que le capitalisme marche d'une manière capitaliste, il doit y avoir ce qu'on appelait avant prolétarisation et qui aujourd'hui a été révisé en subalternisation. Ceci est complètement ignoré quand la fantastique productivité sociale du capital est constamment et répétivement invoquée par la société civile internationale, à des groupes auxquels je participe. Pour établir le même système d'échange partout dans le monde, ce qui est la ligne de base de la globalisation, les barrières entre les économies individuelles nationales et le capital international doivent être enlevées. Quand cela se produit, les États perdent leur particularité constitutionnelle, individuelle et idiosyncratique dans l'histoire et deviennent recodés en tant qu'agents pour manager les intérêts du capital global et dans le circuit universitaire européen. Sans parler de l'eurozone, qui est maintenant définie sans vergogne, non comme une union, mais comme une collection d'États, même par les journaux et par les têtes de l'État, comme une collection d'États de crédits et de données. Credit state, data state. Donc on oublie ça, mais même à l'intérieur de l'université, on commence ce truc global, on commence à entendre des phrases absolument pathétiques telles que « clusters of excellence », des cloîtres d'excellence, je veux dire tellement furieusement vulgaire. Et quelque chose qu'on avait, cette idée, depuis tellement d'années, combattue dans la place d'origine, c'est-à-dire aux États-Unis. Et voilà, je passe mon temps à visiter en Europe ces cloîtres d'excellence. J'en suis moi-même à devenir un cloître d'excellence. Donc, quand ça se produit, les États perdent leur particularité constitutionnelle, individuelle et idiosyncratique dans l'histoire et deviennent recodés en tant qu'agents pour manager les intérêts du capital global. Dans une telle situation, quand la demande et l'offre commencent à devenir le principe d'organisation pour mener un État, nous en venons à réaliser que des articles tels que l'eau potable ou la recherche pour traiter le HIV-SIDA, disons, ne sortent pas nécessairement en tant que demande, en termes de ce que demande l'économie globale. Ce genre de besoin devient alors supervisé par une collection globale d'agences qui sont séparées des États-nations. Ce groupe est souvent appelé la société civile internationale, une description plus palliative de ce qui est aussi et encore appelé organisation non gouvernementale, entretenue par les Nations Unies. De la sorte, nous pouvons dire que la structuration de l'utopisme de la globalisation fait advenir des États restructurés, aidés par une société civile internationale et autres instruments de gouvernance mondiale, et c'est bien connu. Je ne suis même pas en train de parler de la financiarisation du capital et de l'utilisation de la famille et du foyer dans la crise des subprimes, etc. Il y aurait vraiment trop à dire là-dessus. C'est bien connu que le management du genre procure des alibis pour toutes sortes d'activités à l'intérieur de ce circuit. Depuis des interventions militaires à différentes sortes de plateformes d'action où l'expérience profondément enchâssée dans la différence culturelle, est traduite en équivalence générale de genre. Gender, general equivalence. L'équivalent général du genre, ça fait partie de la disciplinarisation. Souvent cela se produit parce que les femmes sont perçues comme étant une section de la société plus malléable et plus poreuse, spécialement les femmes sous un certain niveau de revenu. Si dans une utopie globale, il est aussi imaginé que la préférence sexuelle pourrait être traduite dans le langage de l'équivalent général affectif, cela existe sur un plan séparé. L'utilisation des femmes et l'attitude libérée envers les queers. Nous voyons que pour pouvoir établir le même système d'échange partout sur le globe, nous sommes obligés aussi d'établir le même système de gendrage globalement. Cela, je le dis en une phrase, mais croyez-moi, cela fait complètement partie de l'espace contradictoire de l'activisme de genre, du féminisme engagé, dans lequel je suis également plutôt très profondément impliquée. Donc, quand nous pensons à la disciplinarisation, qui produit aussi, vous savez, par les lois de la disciplinarisation, le même système de gendrage global, l'équivalent affectif, l'équivalent général. Nous avons besoin de penser, non pas oubli de ça, mais complicité. Parce que de l'intérieur de la complicité, une certaine sorte de critique, opiniâtre, reconnaissant les doubles contraintes, peut produire quelque chose de beaucoup plus fort pour des gens qui vont nous suivre, que juste de s'opposer avec ses propres intérêts justifiés. Là, la traductrice avoue qu'il y a un petit passage de deux phrases pas bien compris.
Then, something that simply sees it as something to oppose, generally in justified self-interest.
Bon, on reprend. C'est le problème, malheureusement, ça ne nous mène pas très loin. Parce qu'une fois que vous êtes arrivé là, parce que vous n'avez pas eu la pratique de la liberté, mais juste voulu vos intérêts justifiés, ce qui se passe, c'est que vous faites le printemps arabe et il se détruit. Parce qu'il n'y a pas de pratique de la liberté là. Vous savez, vous sortez la Chine en 1949 du médiévalisme et ça se détruit. Et donc ces sortes de choses, laissez-moi en dire quelques mots. C'est le travail dans ces écoles de village. Je déteste le bénévolat privé, et c'est ce que je fais. Mais combien de temps allons-nous attendre? Ça aussi, c'est un dilemme. Combien de temps allons-nous encore attendre? Quand l'État se satisfait d'avoir établi une soi-disant éducation primaire gratuite, et quand l'index de développement humain se satisfait d'être quantifié et de pouvoir dire combien d'années d'école sont nécessaires, alors que pour nos propres enfants, nous visitons les universités pour voir dans lesquelles il y a le meilleur, absolument meilleur enseignement de qualité pour eux. Donc, cette idée particulière, cette idée d'une autre sorte d'éducation qui va amener à la pratique de la liberté, et pas seulement penser que les pauvres ont seulement des besoins, il n'y a que nous qui avons des désirs, c'est quelque chose que l'on doit, en fait, à quelque part questionner. Et c'est de ça que je parle. Enseigner la littérature, à la base, c'est enseigner comment lire, au sens le plus robuste du terme. Vous savez, les gens me demandent, comment ça se fait qu'avec tout ça, vous pouvez encore enseigner la littérature? Ce n'est pas la littérature que j'enseigne, en fait, c'est le littéral. Dans ces villages, je suis certainement pas en train d'enseigner de la poésie. C'est la poésie du système décimal que j'enseigne. Parce que c'est seulement avec le mathématiques stream qu'ils vont rentrer dans le mainstream. C'est seulement en entrant dans les mathématiques qu'ils vont entrer dans le courant général. C'est pas en déclamant de la poésie qu'ils vont rejoindre le courant général. Enseigner la littérature, à la base, c'est enseigner comment lire, au sens le plus robuste du terme. Enseigner la philosophie, à la base, c'est enseigner comment penser, et là encore, au sens le plus robuste du terme. C'est enseigner un activisme de l'imagination et de l'intellect. C'est d'enseigner comment jouer de soi-même comme d'un instrument, distant, néanmoins connecté. Lisant, écrivant, il y en a seulement très peu, une joie inattendue pour l'enseignant, qui passe d'être enseigné à jouer à perdre. La seule manière d'être enseignant dans les humanités. C'est quoi perte ici? Perdre voulez-vous quand vous jouez à perdre? Alors vous n'avez pas perdu. Les parents le font, les profs, les enseignants. Mais qui gagne perd. Une galerie de miroirs. Gain à perte à gain à perte. Mais qu'est-ce qui reste? C'est comme ça que fonctionnent les humanités fondamentales en critique.